Bienvenue à la French Connection, épisode 157. Ce soir, je suis avec Steve. Et effectivement, on est vraiment avec Steve.
Bonsoir tout le monde, ce que je disais.
Vincent.
Salut.
Et Patrick.
Hello.
Qui fait pas bien la vaisselle, semblerait.
Je fais pas parler de ça.
J'aime les plugs. On est encore en COVID. Il travaille encore pour beaucoup d'entre nous. Communauté sur le Slack du Hackfest, si vous avez goût de jaser, de vous changer un peu les idées et de moins broyer du noir. S2020, on a le bonheur d'annoncer les trainings. L'URL va être dans les show notes. Patrick, as-tu quelque chose à promouvoir?
Ouais, ouais. Bien évidemment, édition COVID, fait que le tout risque d'être pas mal tout en ligne, dont les trainings sont 100% en ligne. On a 6 différents cette année, dont un nouveau exclusif Québec francophone super cool, mais quand même très drôle considérant la situation. Sécurité physique 101, 201. Donc, sécurité physique à distance, non physique, c'est ça qui est ça. Mais ça arrive comme ça. C'est ça, deux cours, là, un intro Blue Team un peu plus, puis un 201 de deux jours plus Red Team, sécurité physique. Donc, super intéressant. On a toujours notre sécurité 1, 2, 3. Et dans les cool, plus en de la fun, on a aussi du Ascent, Tabletop Exercise, qui est vraiment un bon concept là, pour pratiquer votre SOC, votre sécurité et autres. Donc, c'est un training, je crois, de deux jours sur comment faire les exercices. Puis dans le training, il vous montre comment les faire. Il y a des simulations et autres. Il y a du web app moderne, donc avec du Node.js et autres trucs du genre. Et du Advanced Malware Analysis, qui est quand même très cool aussi. Là. Fait que ce qui est cool de ça, ben vous n'avez pas besoin de payer votre hôtel, votre déplacement, votre bouffe, blablabla. Donc ça revient un petit peu moins cher. Fait que c'est cela. Allez voir le tout sur les URL qui sera posté dans les show notes.
Allez voir les show notes. Il y a bien des choses drôles et des typos qui s'y cachent.
Mm-hmm.
Commençons avec les nouvelles. Une de Patrick qui aime bien parler de Desjardins.
Ouais, ben là, c'est pas vraiment la faute à Desjardins, mais c'est relié à Desjardins. Courtier hypothécaire de Québec qui a acheté des données confidentielles justement dans le leak de Desjardins sur 5000 clients, qui a écopé d'une amende de 5000 $ et qui peut continuer d'exercer sa profession de courtier d'assurance, qui est totalement ridicule. Si on fait des comparaisons avec du monde qui achète des données sur du black market et autres, souvent c'est plusieurs années de prison ou des centaines de milliers de dollars en amende. Et surtout pas, tu peux continuer de vendre tes hypothèques, tes assurances et tes choses légalement le lendemain matin. Donc, je trouve ça vraiment ridicule. Je pense pas que c'est le bon message envoyé. Ça fait juste dire « Hey, on s'en fout de l'affaire de Desjardins. 5 000 $ de vente, je vole des données que j'utilise, ben j'achète des données volées, puis je me fais des centaines de milliers de dollars avec ça, puis je paye juste 5 000. Hey, ça vaut la peine, sincèrement. Si tu veux pas voyager aux États-Unis, c'est la seule restriction que tu vas avoir au final, parce que ton casier judiciaire t'empêche d'aller aux États, mais tu peux aller sur toutes les autres plages sur la planète, là, on s'en fout. Fait que si tu veux pas aller aux États, tu veux payer 5 000 $, achète des données volées. C'est une bonne manière de faire les choses au Québec, ça a l'air. Ridicule.
Un peu, mais en même temps, ça rappelle un peu le. Je sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine, le meme du gars qui fait un genre stand-up d'humour sur le deux tracks, comment arriver à la très grosse job payante en consultant en sécurité. Là. La track 1, tu sais, l'étude, travailler comme un fou, tout ça, prend 20 ans avant d'arriver à atterrir dans une job payante en sécurité. Track 2, voler des données, se faire apprendre, aller en prison, sortir rapidement. Total de la job de consultant,
ouais.
2 ans.
Exact. C'est comme faire un mic-nic de soi-même, une belle fraude de soi-même et de faire bien de l'argent après, même si on connaît rien. C'est ça le concept. C'est une poche. Je veux dire, après tout ce qui s'est dit dans les médias et tout, t'as le CAIR qui essaye de pousser sa sécurité, puis t'as la justice de l'autre bord qui se dit « Waf, 5 000 $ ». boy.
Peut-être nos règles sont pas bonnes, ça.
Ah non, c'est clair. Là. C'est sûrement pas la personne qui a fait le choix. C'est toutes les règles en arrière, puis toutes les gogosses de loi, blablabla.
Mais est-ce que je vois que le projet de loi 64 devrait rectifier aussi? Là, corrige-moi, Vincent, je suis wrong, mais me semble que c'est ça qui est l'intention pour arrêter de justement de rire du système de la façon qui est arrangé, comme on parle.
Oui, exact. Tu sais, même là, si vous lisez la nouvelle, ça dit que là, il y a une autre personne qui va être jugée en octobre, je crois. Ouais, qui passe devant le comité 20 au 23 octobre suivant. Puis lui, il est accusé d'avoir acheté 40 000 piastres de données. Fait que c'est quoi? Il va recevoir une amende de 40 000 et 50, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. 40 000 piastres de données, il a sûrement fait à peu près 500 000 de profit avec ça. Ça n'a pas de sens, ça.
Il va payer ça avec une poignée de change, puis après ça, comme tu dis, il va passer à la
totale. Exact. C'est un peu ridicule.
Non, vous attendez mon commentaire, mais je ne commenterai pas.
Fâche-toi, Vincent.
Non, je ne me fâcherai pas, effectivement. Je ne sais pas si les autorités soit ne voulaient pas créer un précédent ou les autorités ont un autre plan, je ne le sais pas. Mais effectivement, la façon dont c'est présenté, parce que c'est présenté comme étant clownesque, disons-le, là, parce que tu l'as dit, 5000, là, tu sais, go track 2, mon grand, là, puis pas de casier, pas de travaux, tu payes l'amende, puis c'est réglé, là.
Tu sais, dis-toi, en moyenne, une hypothèque, là, je sais pas comment ils se font de profit en pourcentage, je me suis dit, s'il y a 5000 personnes qui ont acheté, puis il y en a peut-être 10 % sur chacun, il fait une coupe de 1000, son 5000, il est payé à l'instant d'une coupe de jour. Là. C'est une vraie blague. Là.
Bon, écoute, je ne connais pas toutes les règles de commissionnement pour, non, pour les produits hypothécaires. Puis peut-être qu'il n'y a pas de licence juste pour les produits hypothécaires. Il peut vendre peut-être d'autres produits. Vous seriez... si vous étiez dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'argent à faire en maintenant sa clientèle. Oh, oui. Là. Oh, oui. Oh, oui. Alors, à suivre.
À suivre. J'espère qu'on a des règles ou des punitions qui dissuadent les gens de faire ça, parce que c'est un peu ça l'objectif de nos lois. C'est de décourager les gens de faire des gestes néfastes. Puis t'as pas capable dans ce genre de nouvelles. Oui.
Tout ce que je voulais dire, c'est j'aurais préféré qu'un juge crée justement jurisprudence en donnant une vraie sentence. Je dirais pas exemplaire, mais qui donne le ton, justement, là. Mais bon.
Un peu mieux, au minimum, là.
C'est à voir. De toute façon, moi, je ne connais pas les lois et les règles qui sont ça, fait que j'ai aucune idée dans quelle plage j'y jouais, puis pourquoi ça l'a donné, le résultat que ça l'a donné. C'est peut-être la réglementation aussi qui a pas assez de mordant, ce qui n'est pas impossible, là.
Yep.
On l'a vu beaucoup avec la protection de l'information personnelle. La loi n'était pas assez mordante, donc la capacité d'agir est peut-être limitée aussi. Là.
Ah oui, c'est clair.
On est ensemble.
Oui, oui.
Tant qu'à parler de fuite de données, ça, MGM se retrouve dans les nouvelles encore avec 142 millions d'informations, dont les miennes, maudits.
Sûrement les miennes aussi.
Dans le dark web.
Hey, tu sais, c'est en février qu'il y avait juste 10,6 millions de données et de records de dossiers, de mêlés comme vous voulez, et qui auraient fui. Ça fait plus de sens que ça soit au complet l'ensemble des données de MGM Resorts au complet et non pas juste un hôtel. Et tout ça pour une modique somme de seulement 2 900 $. J'ai trouvé ça assez économique. Je pense que c'est un bon deal, celle-là. Mais... encore là, c'est vraiment toutes les bonnes données qui s'y retrouvent. Là, ça serait à regarder. Mais ceci dit, là-dedans, ben, encore une fois, c'est des personnes qui faut qu'ils surveillent davantage les informations personnelles. Et qu'est-ce qu'on donne lorsqu'on va dans un hôtel? Adresse de résidence, des fois le passeport va suivre, la carte de crédit. Donc, des choses qui peuvent venir nous mordre dans un avenir assez rapproché si ce n'est pas déjà fait. Fait que ces deux rencontres-là, de demeurer vigilants, ceux et celles qui auraient été hébergés dans un des resorts de MGM, qui, à ce moment-là, c'est pas mal certain qu'il y en a qui ont pris la peine d'aller se servir puis peut-être de collecter là-dessus.
Ouais, puis tu sais, si t'es quelqu'un avec un gros nom aussi, là, tu sais où est-ce que la personne va, dans quel hôtel, dans quelle ville, à quelle fréquence. Il y a beaucoup de données en arrière de ça. Là. Fait que ça peut avoir de la valeur pour quelqu'un... qui target un petit peu plus, là, 2000 massages, je sais pas, c'est cheap. Comme tu dis, si tu veux targeter je sais pas, moi, un Elon Musk de ce monde qui est très.
Oui, puis.
Très gros.
Tu sais, Marriott Hotel, là, il y a pas longtemps aussi, là, que ça, il a fui beaucoup d'informations. Mm-hmm. Fait que tu fais un rassemblement croisé de ces données-là, puis ça devient quelque chose, un produit quand même assez intéressant pour, comme tu dis, traquer, si ce n'est pas de compléter le dossier de quelqu'un que tu veux connaître de vendeur.
Exact, exact.
De toute façon, on aura des profils ultra définis dans le dark web à l'heure actuelle. Ça doit avoir aucun sens. Un petit peu de AI, on mélange ça puis on trouve l'information.
La journée que quelqu'un.
AI.
C'est ça. La journée que quelqu'un sur le dark web mélange toutes les données avec un peu de machine learning. Là. Game over.
C'est la fin. Puis ça, il y a Clearview qui est justement dans cet univers un peu brouille.
Ouais, pas vrai? Clearview AI, enfin, au Canada, le Canada a pris une position ferme. Il a dit non, Clearview AI dort, on veut plus faire affaire avec vous autres. Fait que, donc, c'est une bonne affaire pour la protection de la vie privée des gens. Alors que Clearview AI, par contre, faut à sa défense, c'est un outil quand même qui se veut d'être très prometteur pour faire de la reconnaissance faciale dans une masse, une collection, une grosse collection d'informations, d'images, évidemment. Et les services policiers de la GRC s'en sont servis pour trouver des gens, des enfants dans des réseaux de pédophilie, ce qui est donc un avantage, un outil positif pour être capable de résoudre des situations que ça prendrait beaucoup d'heures, pour pas dire des journées, des semaines et des mois, à faire le même travail. Donc, voilà un outil technologique qui pourrait servir, mais en l'absence de balises claires, on le dit souvent, c'est ça qui fait défaut présentement, de laisser, peu importe le service qui veut se servir d'un outil aussi puissant que ça, de le faire en l'absence de règles, en l'absence de lignes directrices pour être capable à ce moment-là d'éviter qu'il y ait des dérapages, parce qu'on sait très bien, ça prend juste deux clics. Et ça peut aller dans une direction comme c'était dans l'eau. Fait que là-dessus, récemment aussi, on a vu qu'il c'est drôle parce que l'histoire qui est ressortie au fin juin sur la Sûreté du Québec, qui regardait un appel d'offres pour se prémunir d'une technologie semblable, voire du côté de la France, ben c'est une histoire qui a commencé ironiquement au mois de... juste pour retenir ma note, c'était donc en avril 2019. Fait que c'est là que ça chemine, ça a pris un an avant qu'on ramène en avant-plan les besoins technologiques de la SQ, mais que de façon opaque, malheureusement, ne transmettent pas ce qu'ils veulent vraiment donc comme outil. Puis là, ça a fait une boule quand même, boule de neige assez imposante pour être capable de dire, ben là, c'est où est-ce qu'ils s'en vont avec cette idée-là, où est-ce qu'ils s'en vont avec la demande pour être capable d'avoir une technologie de reconnaissance faciale. Fait que, tu sais, on ramène aussi en avant-plan, quand on parle de reconnaissance faciale, les caméras qui sont portées sur les policiers, ils ramènent en avant-plan qu'ils veulent le faire, ils veulent travailler avec ça. Tout à fait en accord avec ce genre d'outils, parce que souvent, ça va calmer les citoyens qui sont un petit peu plus coquilles avec le policier, parce qu'on voit très bien les fameuses vidéos sur YouTube qu'on dit toujours « Ah, voici la brutalité policière, regardez ce qu'il fait », mais on n'a jamais le petit 5 minutes avant qui a fait en sorte que ça a envenimé la situation, que là, le policier est obligé d'intervenir de façon musclée. Fait que, tu sais, si on a les deux versions, la version citoyenne coupée puis la version complète, officielle, policière, ça peut peut-être être intéressant d'avoir les deux côtés de la médaille comme ça. Mais ceci dit, même avec la caméra corporelle, il faut qu'il y ait des règles claires, tant au fédéral, tant qu'en provincial, pour l'utilisation de tels moyens pour documenter les visages qui sont rencontrés sur le chemin. Que vous en pensez, Gurt?
Sinon, petit complément d'information à la nouvelle de Steve, c'est sorti aujourd'hui. Sinon, ce qui arrive, ben, il y a une dame, une photographe professionnelle québécoise qui veut intenter une poursuite justement contre...
Ben, Vincent.
Bon, c'est...
Ben, comment tu peux l'acheter le site, hein?
C'est pas coupé.
C'est justement, on va compléter pour Vincent, tant qu'à y être, mais dans le contexte, justement, de la dame veut poursuivre, la photographe veut poursuivre la GRC pour utilisation de d'images qui auraient eu un copyright dessus et donc qui auraient été utilisées sans verser les honoraires appropriés. Et c'est là que ça lance un autre débat, justement, sur l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur dans un contexte de reconnaissance publique. puis je crois que ça vaut la peine aussi de dessiner une ligne directrice pour être capable de dire, ben voici comment on peut s'en servir avec des produits publics et des produits privés. Je complétais un peu ce que tu étais rendu, Vincent. Vas-y, continue.
Ah oui, excusez-moi, je pense que j'ai perdu la connexion pour une raison...
Pour une
raison connue que je n'aimerais pas, mais bon.
D'accord.
Bon, tout simplement pour dire que la dame va intenter une poursuite pour collecte d'informations à l'insu des gens puis utilisation sans le consentement. Alors, on verra jusqu'où cette histoire-là pourra aller, mais la dame, c'est envers la GRC là, qu'elle va intenter une poursuite.
Ah, mais c'est bon. Ça qui est drôle de cette poursuite-là. On en parlait avant le show, mais c'est Clearview, le logiciel qui a téléchargé les photos publiques de partout, mais a poursuivi la GRC, qui est un utilisateur du logiciel de Clearview, qui a volé la photo. Je sais pas ce que ça va donner en cours. Je sais pas si ça peut être possible ou s'ils vont juste dévier vers Clearview, là, mais c'est ça.
Oh, il peut avoir un lançage de balle. Le lançage de balle est facile dans ce dossier-là. Mm-hmm.
Oh, c'est clair. Oh, ouais. Mais il faut le dire, là, Clearview, la problématique, puis pourquoi ils s'en vont du Canada et tout, c'est parce qu'ils utilisent des données publiques sans le demander à personne. Là. Et pas juste public, même des privés. T'sais, ils vont aller fetcher dans les réseaux sociaux le plus de données qu'ils peuvent, puis qu'ils mettent ça dans leur base de données de machine learning, etc.
Alors voilà, à suivre.
C'est une chose très complexe, ce contrôle, cette ligne-là entre un usage légitime d'une belle technologie et la déviation vers quelque chose qui n'est pas souhaitable pour tout le monde. Puis tant qu'à parler de choses pas souhaitables, TikTok, Steve, encore une fois.
TikTok, qui est là, TikTok. Ben oui, l'application maudite, moi en tout cas, je la qualifie comme ça. Et ça a fait quand même parler la semaine dernière et cette semaine concernant l'utilisation de TikTok qui quand même a été téléchargée pas loin de 500 millions de fois sur la planète. Et... majoritairement utilisé par les Indiens, donc les gens de l'Inde. Et par rapport à l'Inde, dans le petit conflit qui s'est organisé depuis un mois dans le nord-est entre l'Inde et la Chine, ils se sont approchés un peu dessus, puis l'Inde pourrait s'assurer qu'il n'y a pas d'espionnage militaire qui est fait, donc envers les soldats indiens qui sont sur le front. Ils ont dit, on coupe ça, on ne veut plus rien savoir de TikTok chez nos citoyens. L'Angleterre, l'Australie sont présentement sous la même étude d'être capables de comprendre ça vient-tu une menace économique, socio-économique envers les citoyens, parce que il y a un programmeur qui a été capable de déconstruire l'application et trouver un deuxième agenda à l'intérieur de TikTok permettant de découvrir qu'il y a de l'information qui est retournée, d'information qui n'est pas le produit que les gens mettre de l'avant, donc les vidéos comiques, farfelues et tout cet autre entertainment qui est produit, mais bien de l'information sur la localisation du téléphone, comment est-ce que c'est utilisé, quel réseau, un paquet de détails techniques. Donc, en principe, ça se veut d'être un moyen pour épier la vie privée des gens, alors que c'est pas ça pantoute qui est prévu. Et de cette façon-là, TikTok va faire l'objet justement de beaucoup d'enquêtes de bien des agences à travers le monde. Et personnellement, ça en est un type d'application que je crois que c'est pas le bienvenu d'avoir ça dans son arsenal d'apps sur ses appareils pour tout simplement éviter que ça devienne un conduit pour le MSS, qui est les agences de sécurité chinoises, pour être capable d'épier qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Déjà, on vient de tasser un peu plus Zoom, quoi qu'il est très bien exposé, mais quand même, Zoom demeure une compagnie chinoise et toute compagnie chinoise sont redevables aux demandes du Parti communiste chinois sur demande de fournir des données, des informations. Donc, voilà.
Je pense que la nouvelle n'est pas dans nos show notes, excusez-moi. Mais Zoom, by the way, ont annoncé aujourd'hui qu'ils réalisaient une tablette propre à eux. Donc, un bon moyen de contourner toutes les règles du App Store, du Apple Store, etc. Et pousseront leur propre propagande et espionnage dans leur tablette.
Oh yeah!
Mais pourquoi les gens vont utiliser ce genre... C'est quoi le plan? C'est quoi? Il y a du miel dans Zoom? Il y a quoi dans TikTok? Il y a du miel? Le monde
c'est 4 à 6 lettres. Hein? Tu peux pas utiliser quelque chose de plus long qu'en lettres.
Exactement.
Je peux pas te dire. Utilisons la pire cochonnerie qui nous espionne. Je pense que c'est cool.
Mais les gens n'ont pas, portent pas attention, justement, c'est, ça espionne-tu ou ça espionne pas. C'est très difficile pour le citoyen moyen de le savoir parce que les applications sont présentées pour qu'elles soient tellement faciles d'utilisation que les gens, encore une fois, ne lisent pas les petits caractères du contrat dans lequel ils s'embarquent parce qu'il dit clairement, ça dit que ça va documenter au complet puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec les données comme n'importe quelle plateforme de médias sociaux. Fait que les gens ne lisent pas, s'exposent, puis après ça, ils chialent. Désolé.
Non, moi, je suis entièrement d'accord. Puis sur ça, je ne sais pas, je ne connais pas les autres CASBY, mais je sais que le CASBY de Microsoft, celui avec lequel j'ai un peu plus d'expertise, il cote chacune des applications comme ça, dont Zoom est coté, Google est coté, ils sont tous cotés, avec une note de 1 à 10, avec la conformité légale, la conformité de tous ces éléments, tout un élément de conformité comme ça. C'est très intéressant puisque ça donne une vision. Je ne sais pas si c'est biaisé parce que c'est quand même Microsoft qui met ça de l'avant, mais cette information-là est intéressante puis je ne l'ai pas vue publiquement disponible, cette information-là. Et ce serait à la limite intéressant justement pour aider le consommateur, un peu comme on a dans les... plus aux États-Unis, mais les restaurants où il y a des lettres qui signifient le niveau de salubrité du dit restaurant, où on a des indicateurs qui sont vérifiés par un tiers parti qui aide les gens qui savent pas. C'est moi, je peux pas savoir à vue de nez si le restaurant est propre ou pas. Donc, je m'appuie sur l'évaluation d'un quelqu'un qui est censé être neutre et pouvoir m'aider à prendre une décision plus éclairée.
J'ai vu un site web comme ça, mais il était en même temps un peu biaisé parce que la compagnie qui l'hébergeait faisait partie de certains de les logiciels. La review datait de peut-être 2 ans. Fait que Zoom était coté, mettons, 4 sur 5, mais s'il l'aurait fait aujourd'hui, ça serait sûrement 1 sur 5. Fait que des choses comme ça. Faudrait que je retrouve l'URL, j'ai vu ça il y a plusieurs semaines, là, mais il y en existe, mais c'est pas des comités non biaisés au BNL, etc. C'est ça le problème.
C'est ça.
Fait que si quelqu'un finance par en arrière, tu le sais pas.
Ouais, ben c'est un peu ce que j'ai annoncé sur la plateforme de Microsoft, puisque c'est sûr que tous les services Microsoft sont cotés à 10.
Hein? Ils sont parfaits.
sont les meilleurs. Mais,
la belle revue très indépendante. Hein?
Ben, l'objectif, c'est un peu ça, mais ça serait un peu plus indépendant que ça. Mais en même temps, ils documentent les choses. Fait qu'on est capable de voir si on est sous Sarbonne Accès, si on est sous ISO 25000, si on est sous C-Star, si on est sous... Et ensuite, fait qu'on est capable d'avoir quand même... se faire une opinion, puis ce qui est encore plus le fun, puis si vous, auditeurs, si vous l'avez, possible de jouer avec ça, allez avec. Il y a, disons, s'il détecte dans ton environnement que tu utilises Zoom, par exemple, puis qu'il y a une fuite d'informations avec Zoom qui sort, il va te répertorier, il va t'avertir que tes utilisateurs utilisent Zoom et qu'il y a une fuite qui a eu lieu en conséquence, sans savoir si tes utilisateurs ont été explicitement touchés, mais ils vont même
faire la même chose. C'est déjà cool, là. Ouais, c'est bon, ça.
Fait qu'il y a une partie d'intelligence qui ça, mais là, ça, c'est vraiment pour les entreprises, puis le grand public qui devrait avoir une agence de cotation des entreprises info-nuagiques, savoir dans quelle mesure on aide les utilisateurs à prendre des décisions éclairées. Puis dans le cas de Zoom, je suis encore flabbergasté que les gens, après autant de nouvelles que ça, utilisent encore ça. Ça me fascine.
Le pire... c'est le monde qui travaille en sécurité qui est encore sur LinkedIn et partout sur les réseaux sociaux. Ça, on va dire que c'est pas grave qu'ils ont patché. C'est pas ça le point. Toutes les compagnies patchent leurs bugs. C'est pas ça l'affaire. C'est triste. C'est dommage. Le gouvernement du Québec utilise encore Zoom, by the way. C'était Health, Télé-Health ou quelque chose comme ça. Là. Télémédecine, ouais.
Savez-vous, c'est le ministère de l'Éducation encourage encore Zoom pour les écoles?
Oui.
Bon, c'est un drôle de message qu'on envoie aux enfants aussi, hein. C'est. Mais bon, je me convainc.
C'est encore la solution facile. La Chambre des communes s'en sert encore parce que ça a été un moment rapide. Autant que c'est de l'information publique qui jase entre eux autres, il reste toujours bien. J'ai pas vu l'essentiel d'évaluation de risque que le CST a fait, mais ça revient à ce qu'ils s'en servent parce que pour eux autres, c'est juste de l'information publique.
Oui, hein. Mm-hmm. Ben, j'ai vu des écoles qui utilisent Google Classroom aussi, fait que c'est variable. Je ne sais pas comment ça répercute sur l'ensemble, mais il devrait y avoir une directive du ministère pour justement favoriser des outils qui sont plus adaptés, surtout avec des enfants. Et certains sont en bas de 13 ans, qui normalement ne devraient pas être sur des outils qui ne sont pas dûment qualifiés pour leur usage. Fait que là, on tombe dans encore des zones même légalement troubles. Donc, c'est un peu particulier tous ces éléments-là.
Oui, mais il n'y a pas juste ça. C'est aussi le contexte dans lequel tu vas l'utiliser, ton environnement. Regarde, chez toi, Nick, on voit que tu aimes Metallica, mais c'est tout. Tu n'as pas d'informations compromettantes. Steve, Patrick, moi non plus, le mur est bleu puis il est lettre, mais il va être refait. Là.
Bon, on ne dira pas de ce qu'on a parlé avant le meeting, mais là.
C'est ça. Ben, tu sais, tu veux utiliser un outil, mais donner de l'information au public, mais il faut que tu t'assures que ton environnement physique également ne compromette pas certaines informations. Ce qu'on a régulièrement vu dans le passé, dans des interviews, des nouvelles, des shows, des podcasts, peu importe, on a tous vu ce petit moment où tu disais « Oh non, qu'est-ce qui fait que le logo en arrière, qu'est-ce qui fait que ce logo-là en arrière quand il parle de l'autre compagnie, là? » Tu sais, mais bon, enfin.
Ouais, ce genre de choses-là, mais de toute façon, j'imagine que plein de gens, comme moi j'ai vu, les gens en télétravail, déjà là, ont un petit peu de misère à comprendre qu'ils vivent dans un environnement et que les gens voient ce qui se passe.
Oh yeah.
Manger goulûment à la caméra, c'est pas génial.
Sortir de la douche en arrière, légèrement vêtu.
Aller aux toilettes.
Ouais, j'espère qu'il était stagé, ça.
Je suis que non, moi.
Ah, je suis sûr que non aussi, j'espère juste.
Donc, c'est un peu ça, il y en a que j'ai déjà eu des cas de personnes qui étaient dans leur lit pendant un meeting en plein quart de journée. Donc, c'est un peu ça. Fait que il y a comme un décorum minimum que les gens ont oublié quand ils sont là. Fait que bon, on diffuse plein d'informations sur nous-mêmes. On dit qu'on on diffuse pas. Là, Vincent a dit qu'effectivement, oui. Fait que là, je diffuse quand même l'information sur moi à travers ça, même si elle n'est pas directe, cette information-là. Fait que de savoir est-ce qu'elle est confidentielle ou pas. Là, on diffuse publiquement, fait que c'est pas ça, mais dans un contexte où on diffuse pas publiquement, qu'on est déjà dans un meeting d'entreprise, là, c'est un peu différent, ce genre de contexte. On prend pas.
Oui, et puis là, parle d'intelligence, de machine learning sur les mouvements des personnes, sur les visages, le nom à lequel ils s'enregistrent, le courriel qu'ils utilisent, link ça à LinkedIn. Facebook, YouTube, blablabla. Bla, bla. Sorry, mais un simple meeting Zoom, vous vous mettez des centaines de points de données gratuits dans le vide, là, à la Chine.
En plein Clearview AI, hein?
Ouais, c'est ça. C'est très relié, hein? Très, très relié. C'est, la Chine aussi a de l'analyse similaire à Clearview AI. Là. Ils sont très en avance sur nous là-dessus.
Oh, yeah!
Entre autres, puis en parlant de ça, j'ai vu c'est la plateforme WebEx qui permet de faire de la reconnaissance faciale built-in dans l'application.
Yes. Fait que moi, j'ai été présenté à cette plateforme-là pendant le temps que mon employeur s'est fait acheter par Cisco. Et puis, quand on a eu la démo officielle, ça fait presque 2 ans de ça, là. Je te dirais qu'il n'y a pas grand monde qui était heureux. Hey, ça dit ton nom dans l'écran, tu survoles avec ta souris au-dessus de ton visage, ça dit le nom de l'autre personne, si tu bouges pas, ça te mute. C'est une affaire de fou, là. Là, oui, OK, c'est US, c'est moins pire, mais non, c'est pas si moins pire que ça.
Ah, tout est relatif, hein, parce que les États-Unis sont quand même relativement nos amis. Si on a des intérêts commerciaux qui sont désalignés avec les leurs, ils seront un petit peu moins nos amis dans ce moment-là. Fait que,
ah ouais,
dans toutes sortes obscures.
Sont les très grands espions sur la planète sont là-dedans. Là.
Donc, soyez vigilants. On pourrait avoir une cote pour ce genre de choses-là. Bref, on a encore battu une chose. Tant qu'il y avait l'espionnage et ainsi de suite dans ces affaires de drama-là, le Canada est le seul pays des 5 yeux qui n'a pas encore banni Huawei.
Oui, là, ce que Pat aime parler de Jardin, moi j'aime bien parler de Huawei.
Change-toi, Steve, vas-y.
Ah, regarde, là. Enfin, on va dire les choses positives. Je pense à toi, Vincent, quand j'apporte ça de même. Enfin, l'Angleterre a dit non, Huawei, on va sacrer ça dehors. Ramassons tout ce qui est Huawei dans les réseaux de télécommunications, puis on va sacrer ça dehors par 2027. Ça, c'était ce que le premier ministre Johnson a dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Mais là, hier, il a viré son chapeau de bord parce que là, ça brasse quand même pas mal à Hong Kong. Et devant ce brouhaha-là, il a dit Désolé, ça va à l'encontre des ententes qu'on s'était fait lorsqu'on a cédé Hong Kong, qui est l'ancienne colonie britannique. Et là, on va se dépêcher un peu plus vite que 2027 à sacrer Huawei dehors. Oups! Fait que là, ça veut dire qu'il y a des techniciens, des ingénieurs qui vont falloir qu'ils travaillent en overtime pour être capable de trouver des équivalents, d'enlever tout ce qui est passant Huawei un peu partout et remettre ça probablement à Ericsson ou Nokia ou Samsung, on verra. Mais ça va être ça l'enjeu. Fait que donc, quand on parle des Five Eyes, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada, qui est ses cinq partenaires au niveau de l'écoute électronique mondiale. Et de ces cinq-là, les quatre premiers que j'ai mentionnés ont pris la décision de ne pas inclure Huawei dans le développement du 5G et surtout l'Australie, parce qu'ils ont des gros différents commerciaux, eux autres, en bas. Et là, il reste que le Canada qui n'a pas fait pris de sa position ferme en disant « on ne veut pas Huawei ». Les services de renseignement, services policiers, certains ministères fédéraux ont tous dit « Huawei, on n'amène pas ça ici, on court après le trouble, on va se faire dilapider nos connaissances, nos avantages commerciaux ». Il reste que présentement, le Canada n'a pas pris sa décision. Je crois aussi qu'est-ce qui pèse dans la balance de ne pas prendre la décision. On a la CFO de Huawei, qui est Mme Wei-Ming Wanzhou, qui est toujours à Vancouver. Et on a deux ressortissants canadiens qui ne sont pas dans les mêmes conditions luxueuses que Mme Wanzhou, ça a été tenu, sont en Chine et qui font le temps. Fait que là-dessus, je crois qu'il y a quand même une plateforme assez difficile à négocier avec. Ça, je suis pas mal certain que ça rentre dans l'équation. Mais cependant, c'est pas d'hier que la décision aurait dû être prise. Fait que les grands télécoms du pays, voilà deux mois, ils ont dit « OK, c'est beau, nous autres, on prend une direction. Huawei rentre pas, personne n'a pris la décision, on va prendre d'autres choses. » Fait que Bell, Rogers, Telus, ils avancent, eux autres, avec le fournisseur avec qui ils ont signé. Et le 5G commence à prendre forme un peu partout au pays. Mais de plus en plus, on voit que à travers le monde, il y a beaucoup de pays qui ont adopté Huawei. Et en même temps, bien, il y a toutes sortes de travaux connexes qui ont apparu, qui sont en relation avec soit du travail minier, soit des droits d'exploitation futurs, ou peu importe les avantages que ça amène à la Chine pour être capable d'avoir pied à terre déjà dans ce pays-là. Fait que nous autres, à date, il y a un contrat qui a été signé dans le Grand Nord pour amener de la télécom à haute vitesse pour les régions éloignées de ce coin-là. Est-ce que ça va faire qu'est-ce que c'était promis? On ne sait pas, on verra, mais ça demeure que ça va être du Huawei qui va être placé là pour ce type de travail-là. Reste fondamentalement que l'infrastructure essentielle au Canada ne devrait pas y avoir du Huawei dans la 5G, alors qu'il y en a déjà pas mal dans le 4G. Vincent?
Oui, ben le dernier podcast que j'ai fait avec Nico il y a une dizaine de jours, il y a à l'insu d'Ottawa, TELUS ont installé dans 70 tours cellulaires, malheureusement, de l'équipement Huawei. Je ne sais pas où est rendue cette histoire-là, là. Mais oui, c'est ça. Alors voilà.
Mais l'histoire ne disait pas non plus si c'était pour le déploiement du 5G ou pour remplacer du 4G. Parce que dans le 4G, il y en a beaucoup quand même de composantes utilisées à ce moment.
Effectivement, il ne disait pas.
D'accord.
C'est bon. Continuons avec la CIA qui a reçu des pouvoirs particuliers.
Ça,
ah, vous voulez chicaner? Allez, chicanez-vous, là.
Ouais, je fais une pause. Ah, attendu.
Pas t'as pas l'air concentré pas en tout.
Non, ouais.
Une pause, c'est la CIA. J'ai rien à dire, c'est la CIA, oui.
OK. Parce que t'as envie tantôt au sujet, c'est pour ça que je pensais que tu voulais en parler.
Ah, ben non.
OK. Alors, donc, une nouvelle qui est sortie voulant que un rapport disant que le président Trump aurait, en 2018, donné des pouvoirs exceptionnels à la CIA pour mener des cyber opérations offensives en Iran et en Russie pour déstabiliser les deux pays, tout comme les autres pays font envers les États-Unis. On l'a vu très bien dans l'élection de 2016, et on devrait le voir se manifester dans les prochains mois envers la prochaine élection en novembre américaine. Je suis pas mal certain que ça va brasser un petit peu. Mais encore là, il y a beaucoup d'observations, beaucoup d'observateurs qui sont à périphérie, qui veulent regarder comment ça se passe et être capable d'intercepter là, si jamais c'est le cas. Mais il reste fondamentalement, c'est quand même une mesure qui était très surprenante, parce que depuis l'attaque avec Stuxnet, on n'avait pas entendu des cyber-opérations opération offensive comme ça menée par les États-Unis de façon ouverte, évidemment. Et là, ben, ça devient un aveu qu'il y a vraiment une cyberguerre qui est en arrière-plan. Tout comme l'Iran, quelques semaines, a dit qu'il est arrivé une attaque, encore une fois, contre son programme de développement nucléaire. Et dépendamment des sources qu'on regarde, certains ont amené la propagande que c'était encore une cyberattaque qui s'est manifestée dans le monde réel, dans le monde physique. Mais certaines autres sources d'enquête disent que non, au contraire, c'est vraiment un sabotage pur et simple, physique, qui n'a aucunement rapport avec une cyberopération. Donc, il y a beaucoup de désinformation à travers de ça, parce qu'il y en a des camps qui favorisent que ça soit passé comme ça, encore là, pour amener un spectre de capacité, un peu comme l'État islamique qui réclamait toutes les attaques terroristes qui se passaient sur la planète quand c'était même pas eux autres qu'ils avaient fait. Fait que c'est un peu comme ça qu'il y a un petit peu d'influence psychologique pour être capable de dire c'est moi le meilleur sur The Best Kid on the Block, quelque chose comme ça. Mais ça demeure que s'il commence à avoir beaucoup plus d'échanges de cette nature-là, ça va nous affecter éventuellement. Nous affecter comment? Ben, à un moment donné, c'est bien beau de dire qu'on va faire qu'ils vont faire des attaques de déni de service sur des services publics. Ben, qu'est-ce qu'on a de plus en plus comme services publics qu'on pourrait pas se passer pendant plusieurs semaines? Des services bancaires, mettons. Là, que,
papier de toilette.
Évidemment, si les Cougars de ce monde se font attaquer, on est fait, mon homme.
L'électricité en janvier, ben, drop ça deux semaines, puis on est fourré, là.
Exact. Puis même cet été. Coupe ça cet été, là, puis il fait chaud à tabarnak. Fait que c'est des éléments comme ça que, oui, les infrastructures essentielles sont très sensibilisées à ces faits. Il y a eu, dans les derniers mois aux États-Unis, quand même, quelques attaques contre les réseaux de télécommunications. On a vu des pannes de plusieurs heures de télécommunicateurs cellulaires à travers les États-Unis. On parle de Verizon, on parle d'AT&T. Donc, est-ce que ça en serait des situations comme ça? Des gens proches, encore là, de l'ingénierie qui ont réparé la cause, ça a été une mise à jour d'une table de routage qui ne s'est pas passée comme il faut. Ce n'est pas donc des méchants russes, des méchants chinois qui se sont manifestés. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Il va y avoir certainement plus de désinformation que de réelles attaques. Et il va falloir prendre ça avec un grain de sel puis se dire, OK, bonne respiration, allons voir aux sources officielles puis voyons ce que c'est. Parce que de plus en plus, je disais du IB Group aujourd'hui, un rapport, les attaques de déviation de BGP, donc ça, c'est de prendre le protocole BGP puis tu redésignes les réassignations d'adresses IA dans S, c'est-à-dire pour faire retravailler le trafic ailleurs. Ça s'est produit beaucoup dans le passé, puis je crois que ça peut se produire encore tant qu'ils n'ont pas sécurisé le protocole, parce qu'il est quand même assez facile à truquer pour faire rediriger le trafic ailleurs. Fait que voilà.
Comme tu as fait une allusion justement au programme nucléaire, est-ce que tu peux comme justement parler d'une nouvelle par rapport au programme nucléaire de l'Iran?
Oui, mais c'était dans ce contexte-là qui... vu que l'Iran, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de ses voisins qui veulent le voir émerger de façon étant une nation autonome avec une puissance nucléaire, beaucoup vont s'en prendre à son programme. Ils vont s'assurer qu'il reste à un niveau de base de production d'électricité, non pas de production d'armes. Fait que là-dessus, ils vont essayer par tous les moyens. Fait que c'est là que je relatais tout à l'heure que ce n'est peut-être pas une cyberattaque qui aurait à ce moment-là endommagé le programme nucléaire encore une fois, mais bien un sabotage physique conventionnel.
Et tombons dans quelque chose d'un peu plus léger, ou en tout cas, tout dépendant comment on regarde ça, il y aurait eu un problème avec Twitter qui aurait laissé place à quelques tweets tout à fait intéressants.
Oui, exact. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la réelle cause. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est sûrement l'API de Twitter qui ont trouvé un bug dedans. Beaucoup de spéculations ici. Mais on se retrouve avec une dizaine de comptes tels que Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Joe Biden, Obama et autres qui ont diffusé un message disant « Envoyez-moi 1 000 $ en Bitcoin à l'adresse suivante et je vous renverrai 2 000 $ ». Et après petite analyse de l'adresse, plus ou moins une demi-heure après le tweet, il y avait au moins 50 à 70 000 US qui avaient été transférés vers ces adresses-là. Donc, beaucoup de monde qui se font prendre à des attaques du genre très bidon et... En tout cas... Genre, ouais, c'est ça. On n'a jamais entendu parler de cette joke-là. Jamais.
Non.
Jamais. Mais tout ça pour dire, j'ai pris le screenshot de lui, de Elon Musk, qui a été en ligne environ 12 à 15 minutes. Et dans ce 15 minutes-là, il y a plus que 4000 likes sur le post qui a été fait. Il y a un deuxième post qui était fait, qui était quand même drôle. Il a fait comme une réponse à son propre tweet en taguant Bill Gates, en disant « Hey, nous, on est body-body, puis participez à notre programme. » Puis il y avait quand même presque 1000 likes là-dessus, puis ce post-là était en ligne peut-être 5-6 minutes. Donc, en ayant tous ces gros noms-là, il y a même Kim Kardashian, Uber, le compte de Bitcoin, évidemment, eux autres, ça a dû fonctionner intense. Mais le nombre de followers de ces accounts-là, j'ai pas le chiffre total, mais c'est des millions et des millions juste en view, sans qu'il y ait de likes officiels puis de retweets. Fait qu'en ayant les likes et les retweets, c'est beaucoup, beaucoup de millions de personnes qui ont vu ça. Donc, bon moyen de se faire de l'argent facile, ça a l'air pour certains criminels. Mais à voir si le bug est réellement au niveau de l'authentification, bypass et autres. Certains chercheurs sur Twitter ont analysé les comptes disant « celle-là a du tout effet, celle-là n'en a pas ». Lui qui était tout effet, l'attaque a été faite via le web. Puis les autres qui ne l'étaient pas, c'était fait via d'autres plateformes mobiles et autres. Donc, il y a comme un pattern qui se dessine là. Donc, à suivre sur cela.
J'espère que Twitter va au moins divulguer un peu ce qui s'est passé, au moins juste pour alimenter notre drama un peu, puis nos, notre fun à la pause café.
Oui, à voir, mais logiquement, ils sont assez transparents pour dire c'était quoi le bug quand ils vont le retrouver dans les prochaines heures ou prochaines journées.
Ça serait intéressant de voir comment tout ça va se découler. Et tant qu'à parler de bugs, il y en a une majeure sur Microsoft sur laquelle on peut faire du remote code execution sur les serveurs DNS qui, normalement, j'espère qu'ils ne sont pas exposés à Internet, mais minimalement à l'intérieur de l'organisation. Dans beaucoup d'organisations, il y a des Active Directory, c'est souvent ça, l'élément maître. Des choses, donc, ça a quand même des conséquences importantes. Là.
Oui, puis c'est une vulnérabilité qui est évaluée quand même présente dans les systèmes d'exploitation Windows depuis au moins une dizaine d'années. Puis ça veut dire donc que ça a resté dormant. Il n'y a pas jusqu'à ce jour d'exploitation connue ou d'opération en cours pour en profiter de cette vulnérabilité. Donc l'idée là-dedans, encore une fois, c'est de patcher au plus les plateformes Windows utilisant des services DNS dessus pour être en mesure de prévenir cette vulnérabilité qui est un sous-CVE 2020-1350, Critical Remote Code Execution, et ça a une évaluation de 10 sur 10 en termes de criticalité, parce que là, la possibilité d'être capable de rediriger, donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme wormable, en voulant dire, ça peut créer un verre, puis ça peut se rediriger un peu partout. Fait que c'est là-dessus que ceux et celles qui font de l'entretien de système avec du DNS, patchez ça rapidement. Puis, je suis pas mal certain, peut-être en fin de semaine, j'imagine, on va peut-être avoir une couple d'attaques qui vont s'essayer parce que, oui, c'était patch mardi dernier, c'était donc patch Tuesday de juillet. Fait que ils l'ont intégré dans le déploiement. Fait que ça veut dire si les gens suivent le programme comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils patchent suivant ce mardi-là, ça devrait être diminué, mais j'imagine qu'il y en a qui vont en profiter rapidement pour justement, durant cette période estivale, que beaucoup de sysadmins ne sont pas là. Fait que, essayez.
Oui, exact. Mais il faut le dire aussi, là, c'est le genre de patch qui était disponible aux partenaires de Microsoft depuis plusieurs semaines parce que c'est super critique.
Oui.
Et que la probabilité que le code existe pour l'exploiter est très, très, très grand. Je ne dis pas qu'il est public à 100%, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait comment ça marche déjà. Mais d'après le blog de Checkpoint, le bug serait relié à la signature du DNSSEC, à la vérification de cette signature-là. Je ne sais pas si c'est toujours actif, même si ton DNSSEC n'est pas activé, puis tu es capable de te rendre dans le code. Mais c'est sûr que si tu utilises des DNSSEC, je crois que tu es presque automatiquement vulnérable.
Et ça, à partir des plateformes Windows Server 2008, rien de mentionné pour 2003, rien de mentionné pour les autres. Mais 2008, 2012, 2016, 2019 sont concernés par ça.
Yes, puis pour ajouter une nouvelle, tant qu'à y être, puis je te copie ça, Nick. Cisco a aussi annoncé une trentaine de vulnérabilités, dont 5 critical à 9.8 sur 10, 12 high, 16 important. Fait que si vous avez du Cisco, j'ai pas le détail exact de toutes les machines vulnérables, mais patchez vos affaires et checkez vos environnements.
Mm-hmm. Oui, mais c'est encore des produits commerciaux. Je disais avant d'entrer en onde que c'est des produits donc de petites et moyennes entreprises, généralement, tous les routeurs RV qui sont concernés encore par ça. Puis c'est la troisième fois, je pense, en 6 mois, qu'il y a des grosses failles qui se sont trouvées comme ça, des produits commerciaux Cisco. Ouais. Je me demande sérieusement, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là? Comment ça se fait que tout d'un coup, on en a un paquet en peu de temps qui sont rapportés? Je veux dire, ça fait pour moi une instabilité... Ben, quand même à questionner le produit.
Tu as une réponse assez facile dans le sens que c'est une cible facile. Quand tu vois qu'il en sort 50, tu as un autre chercheur ou un criminel, peu importe, qui va tomber dessus puis qui va analyser d'autres. Puis tu as Cisco aussi qui les analyse puis qui essaie d'en trouver. Le pourquoi, Cisco n'a jamais mis de sécurité au niveau du développement applicatif depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années. Fait que tu as des bugs qui datent de 5, 10, 20 ans là, qui ressortent à tous les jours. Donc, il n'y a rien de surprenant malheureusement là-dessus parce qu'ils viennent, il y a quelques années, commencer à faire du développement sécuritaire. Fait que mais c'est pas facile.
Je te ramène, il y a 10 ans, alors que j'en installais beaucoup de matériel Cisco, puis il n'y en avait pas trop tant qui était manifesté. Puis pourtant, j'avais les deux mains dedans, directement plugué chez le fournisseur, puis on n'entendait pas autant. Et là, depuis justement, là, je dirais 5 ans, 6 ans, davantage se manifeste sur le marché des vulnérabilités comme ça que tabarnak, je t'attends pas de ça de manufacturier de cette importance-là. Là. Au même titre que mais... tu n'attends pas autant de chez Juniper. Il y en a pareil, il y en a une le mois passé, Juniper encore.
Oui, non, tu as raison là-dessus. En même temps, c'est un gros vendeur dans des millions d'entreprises. Je pense que c'est la cible facile. Ou en tout cas la plus payante parce qu'elle est elle qui est plus propagée partout.
Ouais.
Puis en même temps, tu sais, si tu recules de 10 à 20 ans, ça coûtait cher faire de l'analyse sur ces machines-là. Il fallait que tu y aies accès. Puis il y avait beaucoup de monde qui faisait du reverse engineering et autres qui était juste pas au travail durant ce temps-là. Là. Ouais. Là, cette génération-là est rendue au travail, a l'argent, a le temps. C'est sûr que tout va avec. Là.
Ouais, ce qui est troublant, là, en tout cas, dans cette catégorie de produits-là, c'est comme les choses pour le domicile. Les PME ou les moyennes entreprises mettent souvent moins de temps, moins d'énergie à patcher, à corriger. Ils vont laisser plus vivre leurs objets parce que connecter leur équipement d'infrastructure sans vraiment les entretenir à la hauteur qu'une plus grande entreprise va faire. Fait qu'on se retrouve dans une situation avec des vulnérabilités très critiques. Tendu chez beaucoup de monde. On commence à avoir des sérieux problèmes de
ce ça. Éparpille, ça spread le risque chez beaucoup d'IP, beaucoup de personnes, comme tu dis. Au lieu d'être juste des entreprises, c'est rendu partout.
Là. En plus, ben là, de plus en plus, t'as des travailleurs. Mm-hmm. Tous les travailleurs vont peut-être se procurer un routeur de ce calibre-là. Fait que, c'est pas un bon temps, je trouve, là, pour la compagnie. Il faut qu'ils raffermissent ça tant qu'à moi. Là.
Mais ça va prendre des années et des années. Ils ont tellement de produits, tellement d'OS, puis c'est pas du code simple, c'est des bugs, des fois, ils sont simples, mais je veux dire, c'est tout en C, en assembleur, c'est pas...
Ouais, puis les équipes de développeurs...
Pas deux mois, là.
Tu sais comment ça marche, là, c'est des équipes de développeurs qui sont quatre, qui se font donner « voici le projet », puis le premier qui réalise le projet gagne 500 000, et vous divisez ça à la gang. Ça a toujours été un élément de compétition comme ça, puis que là, après ça, ben ils raboutent ça ensemble, puis ça fait un produit final amené sur le marché.
Ouais. Puis si tu prends le concept de Cisco, je ne sais pas pour les autres au niveau réseau, mais Cisco, c'est des mergers d'entreprises. Fait qu'ils en achètent trois et ils mergent ça dans une boîte. Fait que c'est sûr que le niveau sécurité est vraiment pas facile à gérer.
Ben, administrativement non plus.
Oui, exact.
Tu sais, le projet One Identity, là, ça a pris longtemps là, que ça prenne forme, puis que toutes les plateformes interconnectées Cisco qui demandaient un username password, là, ben là, ça s'en va vers une authentification centralisée. Fait que à cette heure, c'est là, ça marche. Mais tabarnouche, j'ai appris tout ça. Parce que justement, c'est comme tu viens de dire, c'était pas évident d'aller rassembler tout le monde.
Ah non, c'est un projet de 2 à 5, des fois 10 ans, faire ces choses-là.
For sure.
Yup.
Puis c'est eux autres qui contrôlent notre infrastructure. Quel bonheur!
Yes!
Quel bonheur! Avant dernière nouvelle, un malware se cache dans un programme pour faire des taxes aux États-Unis.
Assez subtil, hein? Mais c'est un programme qui est poussé de manière obligatoire par les banques chinoises. Donc, mettons nos 5, on se décide d'aller faire une petite aventure entrepreneuriale. On s'en va en Chine, on vend des capitaux à une banque chinoise. Ils vont nous imposer de prendre ce logiciel-là comptable. Et dans ce logiciel comptable figure une backdoor. La backdoor, à ce moment-là, permet d'avoir accès, elle s'appelle Golden Spy, permet d'avoir accès à tout ce qu'on a à faire de transactions financières à l'intérieur. Quoique certains observateurs n'ont pas vu de campagne active d'exploitation, il reste toujours bien ceux qui en ont fait la trouvaille, mentionnent ben, que la porte, elle est là, puis il n'y a pas de barrure sans compte pour être capable d'exploiter l'information. Donc, ce qui laisse présager que deux choses. Pourquoi que ça, de ce pays, un logiciel avec les banques de ce pays-là nous impose premièrement ce logiciel avec une backdoor, OK? Donc, c'est-tu connu, puis ils le font pour que ça soit justement facile? Ou bien, pourquoi que c'est-tu vraiment si différent, la fiscalité de ce pays-là, que tu n'as pas le choix de prendre ça, puis tu ne pourras pas avoir une alternative en provenance d'ici? Des questions comme ça que, encore là, je ne suis pas dans le domaine de la finance, mais je regarde ce que ça ne donne pas confiance d'aller faire affaire là.
Ça donne déjà pas confiance avant qu'on en parle, puis là, encore moins.
Ouais, non, c'est l'État qui veut tout contrôler. Hein?
Ouais, ouais, ouais.
De plus en plus. C'est là que ça, je ramène ça, je relis avec notre histoire de TikTok tantôt, que nécessairement tout produit provenant de Chine, ça a toujours un deuxième agenda. C'est toujours ça que je regarde comme ça. Pareil, on a parlé de l'affaire Flying Whales, l'investissement à Québec, ils veulent mettre de l'argent là-dedans, mais que c'est un 25 % d'ownership dans la compagnie française avec laquelle le Québec veut se relier, mais qu'il y a quand même, il fait partie de la liste des exclusions que les Américains ont fait sur un paquet de compagnies chinoises. Fait que c'est là que c'est à se demander, ils vont venir faire quoi? Faire des blimps, vraiment, pour mettre de l'Internet dans des régions éloignées avec justement un ballon en géostation.
Un beau Google Maps V2.
Genre, là, tu sais. Allez, go. On verra, ça va être pour une autre histoire, un autre temps, mais c'est assez ironique là, qu'à chaque fois qu'on parle de produits chinois, il y a toujours quelque chose qui découle de ça, qui vient de deuxième agenda, là, à chaque fois. Là. Putain, ça serait un beau challenge pour l'auditoire. Est-ce que vous avez déjà rencontré un produit chinois qui n'a jamais été considéré un deuxième agenda?
Ça va une question. Je ne connais pas perso.
Il y en a qui vont dire, on s'habille à tous les jours avec des affaires qui viennent de Chine, puis après ça, ouais, mais ils ne durent pas aussi longtemps que bien des produits qui sont faits ici. Des crayons à mine faits en Chine, généralement, ils n'étaient pas aussi bons que les crayons HB qui étaient faits ici au Canada. Juste faire un petit parallèle facile.
Il y a pas mon offre, on paye pour, hein. On veut pas payer cher, fait que.
Yep.
La scrap.
Il n'y a pas de magie, hein. On a ce qu'on paye pour, fait que. Tout triste. Dernière nouvelle, première russe. Et là, tu peux mettre une note.
Ouais, exactement. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers, il y a des attaques qu'on appelle des business email compromise, donc compromission du service de courrier électronique d'une entreprise servant à faire de la redirection, donc des campagnes de pourriels à être redistribuées à gauche par à droite. Donc, il y a aussi pour aider les entreprises à prévenir des fausses campagnes comme ça. Je dis des fausses parce que c'est de la fausse information qui est diffusée. Il y a l'utilisation du DMARC. Donc, c'est de l'information technique qui est mise dans le DNS pour être capable de dire, ben voici, je suis le service de courrier électronique de l'entreprise X et je donne des pointeurs pour contre-vérifier qui je suis. Alors, il y a un groupe de malfaisants russes appelés Cosmic Lynx qui ont pris la possibilité, on utilise cette possibilité-là, donc de bypasser ceux qui n'ont pas d'implanter le DMARC sur le service DNS et à ce moment-là, flooder, vraiment, excusez, inonder les deux courriers électroniques malveillants, ces services-là. Parce qu'un DMARC va faire en sorte que ça va faire un, excusez le terme technique, mais un handshake, donc, entre le système de courrier recevant et celui qui envoie l'information. Et s'ils sont capables de se donner la main avec ces échanges-là, avec une clé qui peut être mise dans le troisième, le DKIM, qui est mis ces trois pièces d'information, en fait, et va faire en sorte que ça va s'authentifier de cette manière-là, prouvant l'authenticité de qui ils sont. Or, s'il y a des compagnies qui n'ont pas ces manières-là de prouver qui qu'ils sont, ben eux autres, ils ont trouvé une façon facile d'être capable de pouvoir profiter de cette faille et de flooder vraiment les autres services de courrier électronique. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont... ça coûte à rien installer ça sur les services DNS. Ça prend au maximum 20 minutes. Alors que présentement, dans le monde, 80 % des organisations n'en ont pas. Ben, c'est quand même des statistiques en date de juillet l'année dernière que je serais prêt à dire, c'est peut-être à 70 % là, mais que c'est quand même un gros chiffre que les organisations n'ont pas ces moyens simples de s'authentifier pour protéger l'envoi et la réception de spam dans leurs organisations. Voilà.
Oui. Et Patrick se balance la tête. Donc, ça complète les nouvelles qu'on a cette semaine. Les mots de la fin?
Change-toi, Vincent.
Le silence de la fin,
c'est tout le temps à moi. Hein?
Je sais.
Ah non, écoutez, je fais pas d'esprit aujourd'hui. Je vais passer peut-être à la fatigue, mais écoutez, Zoom égale non. J'aime bien l'histoire du scoring à Nicolas. Ton exemple de restaurant, je le trouve discriminatoire en Caroline, par exemple, mais bon, ça peut être une idée. Mais écoutez, surveillez vos arrières. Tiens.
Hey!
C'est bien l'arrière.
bleu et beige.
Oh non, c'est jaune. Jaunelette, là, mais c'est jaune.
On prend ton mot, c'est quand même.
C'est une bonne semaine,
mais c'est ça!
Bye, là!
Ouais. Salut, tourne tout le monde!
Oui, oui.